17h12 sur Radio Campus Tour, vous écoutez Sortez, la quotidienne socio-culturelle. Auditeurs, connaissez-vous la torpeur méridienne qui saisit les villes du Sud ? Peut-être que non, et peut-être connaissez-vous davantage le festival Les Méridiennes. Pour en parler, ce soir dans Sortez, je reçois Antoine Gerber. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'être venu jusqu'à notre studio au de Lyon. Et Antoine Gerber, avant de parler du festival Les Méridiennes, peut-être qu'on peut rappeler ce qu'est Diabolus in Musica.
Oui, je dirige donc Diabolus in Musica depuis sa création il y a très longtemps, puisque c'est depuis 1992. C'est un ensemble de musique médiévale. Ce qui dit comme ça peut paraître une spécialité très, très pointue, très, très austère et qui est absolument tout le contraire. Mais vraiment tout le contraire, parce que ce sont des mondes entiers à découvrir. Le Moyen-Âge étant une période immense, c'est tout sauf ce qu'on croit. C'est pas parce qu'on a entendu 30 secondes de musique ancienne qu'on sait ce que c'est que la musique du Moyen-Âge. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses à découvrir, très, très variées.
Donc la musique du Moyen-Âge n'est pas une musique de vieux, ni une musique pour les vieux ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, quand j'ai commencé, j'étais très, très jeune. Donc non, pas du tout. Mais les Français adorent le patrimoine, adorent le Moyen-Âge, visitent les châteaux. Les lieux patrimoniaux les plus visités en France sont des lieux du Moyen-Âge, en dehors du château de Versailles. C'est le Mont-Saint-Michel, c'est les cathédrales, c'est le palais des papes d'Avignon. Il y a une foule de romans historiques qui battent des records à la FNAC. Vous pouvez trouver des rayons entiers de romans historiques sur le Moyen-Âge. Les gens adore ça, mais la curiosité souvent ne va pas jusqu'à la musique, ce qui est très curieux. Il y a encore des gens qui considèrent ça comme assez péjoratif, comme assez simple. C'est évidemment des a priori et des idées très très fausses, car les musiques peuvent être déjà très très complexes, très savantes, très brillantes, très très brillantes. C'est vraiment des musiques à découvrir.
Comment vous les qualifieriez alors ces musiques anciennes du Moyen-Âge pour des auditeurs qui peut-être n'en auraient jamais entendu ?
Alors, c'est inqualifiable parce qu'il y a tellement de musiques différentes, mais la principale chose à savoir, c'est que c'est la source de tout ce qui a suivi. Et c'est vraiment extraordinaire de se rendre compte que les racines de tout ce qu'on entend plongent dans les siècles. Donc ça commence avec le plein chant, le chant grégorien, la monodie. Donc on peut pas faire plus simple, plus dépouillé, mais c'est pas du tout austère. C'est pas du tout ce qu'on croit. Ça peut être des musiques extrêmement... Bon, elles sont évidemment enracinées dans des siècles, mais elles peuvent être très puissante, c'est pas parce qu'on chante en monodie, tout le monde chante la même chose, c'est vraiment des musiques très fortes, très très fortes. Et puis il y a les polyphonies qui arrivent, il y a les chansons profanes, la musique profane, les premières chansons d'amour avec les troubadours, les trouvères, qui eux-mêmes sont gagnés par la polyphonie, avec des musiciens très très savants, des très brillants intellectuels à la fin du Moyen-Âge, comme Guillaume de Machaut, comme plein d'autres. C'est beaucoup de choses à redécouvrir.
Voilà, peut-être aussi que la musique du Moyen-Âge peut effrayer certaines personnes parce qu'ils pensent que c'est que de la musique religieuse et donc que c'est austère, pas forcément joyeux.
Oui, alors moi ça me fait pas peur du tout l'austérité, et d'ailleurs dans les extraits...
Ah, il en faut, hein.
Il en faut, oui. Dans les extraits que j'ai apportés, il y a notre dernier disque qui sont les premières musiques de Requiem. Donc on connaît évidemment les Requiem de Mozart, de Verdi, de plein de compositeurs très très brillants, mais ça commence au Moyen-Âge, les premiers Requiem. Donc c'est pas des musiques pour rire et pour faire la fête, hein, ça c'est la messe des morts, mais ça donne lieu à des musiques d'une beauté et d'une profondeur vraiment fascinante. Donc j'ai apporté ça, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des chansons très joyeuses, il y a les premières chansons d'amour profanes, voilà, qui sont tous sauf austères.
Est-ce qu'il y a une spécificité au niveau peut-être de la couleur de ces musiques ou de la voix qu'on ne retrouve pas dans la musique contemporaine ?
Alors, on peut la retrouver dans la musique contemporaine, mais c'est une manière de chanter qui est forcément un peu différente de ce qu'on connaît dans l'opéra ou dans la variété, mais il peut y avoir beaucoup de ponts. Il y a beaucoup de ponts entre le contemporain et le Moyen-Âge. Il y a d'ailleurs toute une branche de la musique contemporaine qu'on appelle néotonale et qui, en fait, essaye de retrouver des sonorités du Moyen-Âge avec des voix assez droites, pas trop vibrées, Donc c'est évidemment une manière qui ne convient pas à l'opéra, par exemple. Et on est souvent déformé par ce qu'on connaît de la musique classique, du chant lyrique et de l'opéra. Donc avec le Moyen-Âge, on peut être beaucoup plus proche de musique du monde, par exemple. Dans les traditions en dehors d'Europe, on ne chante pas en polyphonie, on chante toujours en monodie, et il y a beaucoup de ponts communs entre la musique indienne et la musique médiévale, par exemple, notre musique médiévale. Et les manières de chanter peuvent se retrouver.
C'est étonnant ça, parce que c'est vrai que dans la musique indienne, on entend des sonorités qui semblent extrêmement difficiles à reproduire pour des Européens. Et donc là, vous dites peut-être qu'il y a une proximité avec la musique du Moyen-Âge.
Oui, tout à fait. Une manière de... Bon, d'abord, c'est le même langage au début, c'est le même langage monodique, c'est la monodie et pas la polyphonie. La polyphonie est arrivée en cours du Moyen-Âge, mais une grande partie du répertoire, le plein chant, les premières chansons profanes, troubadours, trouvères, sont monodies. Et ça ne veut pas dire qu'il faut chanter comme les Indiens ou comme un certain nombre de traditions en Afrique où on est resté sur la monodie. Mais il y a beaucoup de points communs quand même, des manières de faire, des manières d'attaquer les sons, d'avoir une voix droite qui peuvent se retrouver dans la musique du Moyen-Âge.
Peut-être qu'on peut déjà écouter un extrait. Je vois qu'on a de la chance, vous nous avez amené plusieurs CD.
Oui, j'ai apporté beaucoup de choses. Donc, on pourrait commencer par un magnifique chanteur qui est passé au Méridienne 2018, donc au festival dont on va parler, dans une chanson de Josquin. On est là, à la frontière du Moyen-Âge et de la Renaissance.
Radio Campus Tours, vous écoutez Sortez, la quotidienne socio-culturelle. Notre invité est Antoine Gerber. Alors, nous écoutions une musique que vous nous avez apportée. Est-ce que vous voulez nous rappeler ce que c'est?
Alors, c'est une chanson de Josquin des Prés. Donc, Josquin des Prés, c'est le premier grand compositeur de la Renaissance, mais en fait, il est à cheval entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Une chanson profane, donc accompagnée aux luttes. Et l'interprète était Romain Beauclerc, qui est un baryton qui habite Tours et qui chante dans mon ensemble. Mais là, c'est son projet personnel sur ses chansons de Josquin avec le luthiste Bors Liam.
Alors, en quelle langue chante-t-il ?
Alors, c'est du français. C'est ce qu'on appelle le moyen français, c'est le français qu'on parle au 15e, au 16e siècle. Les premières chansons des troubadours sont en occitan ancien, puisque c'est au sud de la France. Les trouvères dans le nord de la France parlent la langue d'Oïl, qui est l'ancêtre de notre français. Mais dès le 14e, dès la fin du Moyen-Âge, la langue se transforme, se modernise. On appelle ça le moyen français, qui donnera le français classique plus tard.
D'ailleurs, la langue d'Oïl, ça, je crois qu'il y a une espèce de survivance qu'on appelle le patois du Nord. C'est peu ou prou, c'est de la langue d'Oïl.
Oui, oui, oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour restituer ces musiques, il faut aussi restituer les prononciations, parce que la langue fait partie de la musique. Enfin, c'est vraiment un cheval de bataille pour mon ensemble, Diabolus in Musica. Et on travaille énormément les prononciations anciennes du latin aussi, puisque quand on l'étudie et quand on lit les traités de phonétique, c'est assez passionnant.
Voilà, donc il y a aussi un énorme travail qu'on ne soupçonne peut-être pas quand on écoute une chanson.
Oui, quand on fait des musiques du Moyen-Âge, on ne peut pas aller à la librairie, acheter une partition, l'ouvrir, et puis 3-4, on commence, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout quand on aime beaucoup mettre le nez dans les manuscrits et refaire ses propres transcriptions. Ça, c'est un domaine assez passionnant. Et donc, c'est beaucoup de travail en amont.
Alors, puisque vous parliez de langue des pays d'Oïl, je vois sur votre site diabolusinmusica.fr là que vous proposerez bientôt un événement, chanson d'Al-Andalus au pays d'Oïl. Ah, là, vous allez faire rencontrer deux cultures, qu'est-ce que c'est cet événement ?
Oui, bien sûr, nous qui faisons de la musique ancienne, on a, contrairement à d'autres peut-être, les oreilles très très ouvertes et on est très curieux et on aime beaucoup les collaborations. Donc j'ai fait un certain nombre de programmes avec des musiciens d'autres traditions qui ne font pas du tout de musique ancienne, notamment dans le domaine des musiques du monde. J'ai fait un programme avec un chanteur marocain, Rachid Ben Abdeslam. J'ai fait un programme avec une magnifique chanteuse bretonne qu'on va entendre tout à l'heure d'ailleurs, qui mêle les chansons de trouvères et le chant breton. Ce sont deux traditions monodiques qui fonctionnent extrêmement bien ensemble. C'était assez stupéfiant. Dès la première répétition, on avait l'impression de parler la même langue, quoi, alors que justement, c'est pas la même langue. Le breton et le français ancien, le chant breton et les chansons de trouvères, c'est deux choses différentes, c'est deux répertoires distincts, mais ça fonctionne tellement bien ensemble qu'on était très heureux de faire ce programme. Et là, c'est un programme avec un musicien algérien, Kaïs Saadi, qui joue du luth et qui chante. Et c'est un rapprochement entre justement la tradition des chants de trouvères et les chants de la naouba algérienne, des différentes naoubas algériennes, puisque ce que je ne savais pas, il y a des traditions différentes aussi à l'intérieur de l'Algérie. Et c'est pareil, le langage monodique est le même. En plus, nos instruments sont des cordes pincées. Moi, personnellement, je joue une petite harpe, une harpe du 12e siècle, et Kaïs joue du oud. Et voilà, on a beaucoup à s'apprendre et en s'écoutant et à s'enrichir mutuellement. C'est vraiment passionnant pour nous. Et si ça n'était que pour nous, ça serait déjà intéressant. Mais ça l'est beaucoup pour l'auditeur. On a beaucoup de retours très positifs sur ce genre d'expérience.
Sachant que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pendant la pause musicale, la ville de Tours est quand même bien achalandée, en ensemble de musique ancienne.
Mais... Oui, la ville de Tours a une chance incroyable, elle est très musicale dans tous les domaines d'ailleurs. Vous savez qu'on a un opéra, on a une scène de jazz, on a un orchestre symphonique, on a énormément de chorales partout, et on a des ensembles de musique ancienne de réputation internationale, ce qui est le cas de mon propre ensemble, Diabolus in Musica. Il y a une richesse musicale foisonnante à Tours.
Et pourtant, peut-être que ces ensembles, malgré la qualité de leur travail, ont parfois du mal à se faire entendre du grand public, peut-être des étudiants ou de...
Oui, les étudiants, c'est pas le secteur le plus facile pour nous, parce que je pense qu'on souffre de préjugés, d'a priori, voilà, dans la population en général, et peut-être particulièrement chez les jeunes qui pensent que la musique ancienne, qui porte un très très mauvais titre, on devrait dire autre chose, mais personne n'a trouvé un bon titre. La musique ancienne, c'est pour les anciens, mais non, pas du tout. On peut vraiment avoir des chocs esthétiques en venant, surtout en venant au concert, c'est encore mieux qu'en disque.
Oui, la musique ancienne, donc soit ça semble pour les anciens, ou alors ça peut paraître élitiste aussi. Donc,
Oui, ça je vois pas pourquoi. Enfin, je suis peut-être très mal placé, puisque moi, ça fait 30 ans que je baigne là-dedans, hein, donc, mais je vois pas pourquoi ce serait élitiste. Non, moi, c'est... Alors, on est dans le domaine de l'excellence, il faut des interprètes excellents, et je crois que mon ensemble l'a prouvé, mais pour moi, l'excellence, c'est pour tous, c'est pas du tout élitiste, ça doit être accessible à tout le monde.
Voilà, excellence pour tous. Alors, je propose que l'on écoute peut-être cette chanteuse bretonne.
Oui, donc il s'agit de Marthe Vassallo, qui est ici avec le guitariste Gilles Bigot. Marthe Vassallo, qui est la plus belle voix de Bretagne et qui est venue déjà deux fois au festival Les Méridiennes.
L'eredità è stic bien preste Dio ti vesce on dono a lem io mon ciso la la re 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 do on dono a lem le 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 do nan ne cred et was bel on dono a lem io mon ciso na pe mon vedi ni hud on dono a lem io mon ciso na pe mon vedi ni hud a bude me fe ti vesce on dono la re re re
Radio Campus Tour 99.5 FM. Nous sommes toujours avec Antoine Gerber, Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez nous rappeler qui est cette voix mélodieuse que nous venons d'entendre ?
C'est Marthe Vassallo, qui est une très grande chanteuse bretonne, une des plus belles voix de Bretagne. Donc, vous pouvez entendre partout, en fest-noz ou en chant plus traditionnel, les guerziou, les fameuses complaintes bretonnes, dont elle est vraiment une excellente interprète. Elle était avec Gilles Le Bigot, un très bon guitariste qui est également venu au festival Les Méridiennes.
Et justement, puisque je vous posais la question pendant la pause musicale, il n'y a pas de raison que les auditeurs n'en profitent pas. Comment se fait-il qu'il semble y avoir si peu de musique locale, en fait, tourangelle ? Pourtant, ça doit bien exister.
Il en existe et il en a existé beaucoup, comme dans toutes les régions de France. Il y avait autant de chansons traditionnelles locales en Touraine qu'en Bretagne ou que dans le sud de la France ou qu'en Alsace ou que dans le nord. Mais le 19e, le 18e et le 19e siècle ont un peu écrabouillé ces traditions qui ne sont restées que dans les régions qui ont des identités très très fortes et très enracinées, notamment par la langue, ce qui est le cas évidemment de la Bretagne et aussi dans certaines régions de Occitanie, en Provence, en Alsace aussi, où on défend sa langue, et donc ça passe par la musique, ça passe par le folklore, mais ce folklore était également très vivant en Bretagne, où il y avait des chansons de Loire, des chansons tourangelles. Il y a eu des collectages au 19e siècle, et qui sont à la Bibliothèque Nationale. Ce serait vraiment intéressant de faire revivre ces chansons. Mais bon, j'y avais pensé, mais personnellement, j'ai beaucoup à faire avec les 1000 ans de Moyen-Âge, donc on ne peut pas tout faire dans une vie, mais ça mériterait vraiment de faire ressonner ces chansons de Touraine.
Ah, avis aux entendeurs, peut-être, voilà, je ne sais pas, ça pourrait être, comment dire, quelque chose dont la région ou même la ville de Tours pourrait se saisir.
Ah oui, 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 si la ville de Tours se saisissait, je connais même la musicologue qui serait capable d'aller les rechercher et il n'y aurait plus qu'à les chanter, vraiment.
Voilà, bon, alors mairie de Tours, si vous nous entendez, voilà, n'hésitez pas à vous manifester. À propos de se manifester, de manifestation, peut-être qu'on peut en revenir aux Méridiennes. Donc cette édition 2019, je crois qu'elle est riche en nouveautés.
Oui, alors c'est le principe des Méridiennes, hein, d'avoir que des nouveautés, que des surprises et que des musiciens extraordinaires. On a mis en légende cette année à la rencontre de musiciens d'exception. C'est vraiment le cas. Il y a 13 concerts cette année. Alors, c'est la 11e année. On a vécu 10 années assez extraordinaires. Mais comme j'ai pas envie de faire toujours la même chose, eh ben, on change la formule cette année. Donc, le principe, ce sont toujours des concerts de 30 minutes. Au départ, ils étaient uniquement à l'heure du déjeuner, à midi et demi. Une pause méridienne de 30 minutes c'est l'originalité du festival, suivie de dégustations de produits régionaux qui sont offerts par nos partenaires, qui sont souvent des commerçants des halles ou des producteurs locaux, ce qui fait un moment vraiment sympathique salle Hockey Game et dans la cour de la salle Hockey Game. La formule marchant très bien, on a commencé à mettre des concerts le soir aussi à 19h30, toujours suivi de dégustations, et puis là on change tout, on va raccourcir en durée le festival, il va durer que 4 jours. Par contre, on va densifier les journées. Il y aura 4 concerts par jour. Il y aura des ateliers aussi de dégustation parce que le principe des Méridiennes, c'est d'allier musique et gastronomie. Et donc, on aura l'œnologue Christophe Proutot qui va vous initier à ce qu'est le goût, qui va vous faire goûter, pas seulement des vins d'ailleurs. On aura un atelier de chant et on a aussi des lectures de textes sur la musique. On est quand même principalement un festival de musique avec des comédiens qui vont vous lire des textes sur la musique les après-midi entre les concerts. Donc ça va faire 4 journées de festival très dense et avec des musiques extrêmement variées. Le dénominateur commun, c'est la découverte, c'est la surprise et c'est la qualité des chanteurs et des musiciens qui est vraiment extraordinaire. Je suis très heureux d'accueillir ces gens de grand talent à Tours cette année encore.
Voilà, alors peut-être qu'on peut dérouler cette programmation quand même pour allécher nos auditeurs, pour qu'ils viennent écouter tous ces artistes.
Oui, alors il y aura 13 concerts. D'abord, il y a une inauguration, il y a un concert avant les concerts, une inauguration avec les tambours japonais de Enishi de Saint-Cyr-sur-Loire. C'est vraiment des percussions très très impressionnantes. J'aime beaucoup ces manifestations de percussions japonaises que j'ai déjà écoutées plusieurs fois. Et donc, ils nous lanceront le festival de façon assez... jubilatoire à 18h30 le 11 juillet dans la cour de la salle Hockey Game. Et le premier concert en proprement parlé à 19h30, ce sera Gula Hagertoruk, qui est une jeune chanteuse turque, une voix ample, une voix grave, une voix extraordinaire, vraiment qui fait dresser tous les poils du corps. Il ne faut pas rater cette magnifique chanteuse qui nous donnera des chants d'Anatolie. Alors ensuite, le 12 juillet à 12h30, c'est mon ensemble, l'ensemble Diabolus in Musica. Ce sera le bestiaire des trouvères, donc des chansons sur les animaux, et qui seront illustrées par des projections d'iconographie. On a la chance avec le Moyen-Âge d'avoir des enluminures et une iconographie d'une richesse incroyable et très étonnante sur les animaux. Donc ce sera projeté en grand sur le mur de fond de scène de la salle Hockey Game. Ça fait un moment assez sympathique. Ensuite, à 17h30, Frédéric Caton, qui est un extraordinaire baryton basse, donc un chanteur d'opéra qui est tourangeau, qui chante pratiquement jamais à Tours, qui chante sur les scènes du monde entier et qui va nous donner un concert d'œuvres lyriques avec le thème de Goethe et le diable, donc Schubert, Moussorgsky, Berlioz, Gounod. Ensuite, Pauline Bartissol et Laurent Vachal, les sonates de Saint-Saëns. Donc là, on est dans une après-midi plutôt de musique classique. Les sonates de Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns et Pauline Bartissol et tout simplement violoncelle solo à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Voilà pour vous dire la qualité des interprètes qui passent aux méridiennes. Et pour terminer ce 12 juillet à 20h30, un chanteur mongol, Mandakaydan Suren, une voix extraordinaire et un instrument vraiment étonnant, une espèce de vielle à tête de cheval. La caisse, on dirait une espèce de boîte à chaussures, un rectangle, et il vous sort des sons mais vraiment incroyables. Et puis avec le fameux chant diphonique mongol que les gens adorent, c'est vraiment très spectaculaire et très musical. Je continue ?
Avec... Sauf si, pour qu'on reprenne notre souffle, vous avez une pause musicale.
Voilà, donc je vais vous passer une musique avec laquelle on a terminé les Méridiennes 2018, donc de la musique irlandaise, un trio instrumental, le trio BO.
Alors, écoutons le trio BO, et je crois que vous disiez que tout ce qui est musique du monde, ou en tout cas repérée comme telle, marche quand même très bien auprès des publics.
C'est un marqueur des méridiennes. Il y a de la musique ancienne, il y a du jazz, il y a de la musique classique, il y a de la musique contemporaine et il y a beaucoup de musique du monde puisque j'adore ça. Je ne vais pas la durer.
Thank you.
trio breton sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours Sortez. Merci Antoine Gerber de nous faire découvrir ce trio qui est venu, comme vous le disiez, l'année dernière, Méridienne l'an dernier.
Il a clôturé l'édition 2018, donc ce sont de très jeunes Bretons qui font de la musique irlandaise. La musique irlandaise a beaucoup de succès et à juste titre, parce que vraiment, ça décoiffe bien.
Donc nous en étions au 12 juillet, mais évidemment, comme voilà, le festival se poursuit, que se passe-t-il donc le 13?
Alors le 13 juillet à 12h30, on aura de la musique baroque avec un violoniste seul qui va jouer des sonates de Tartini, Mathieu Camilleri, un très grand violoniste baroque. Alors il est seul, est-ce que c'est austère? On parlait d'austérité tout à l'heure pour la musique médiévale. Non, c'est dépouillé, voilà, il n'y a pas d'orchestre sur scène, il est tout seul avec son petit violon. Mais pour moi, c'est extraordinaire, c'est dépouillé et pas du tout austère. C'est très vivant, c'est très enraciné et c'est très puissant. À 17h30, on aura l'ensemble Moravossis, qui sont des collègues et amis. C'est un peu le pendant féminin de l'ensemble Diabolus in Musica, puisque Diabolus in Musica sont principalement des voix d'hommes. Là, ce sont des voix de femmes qui chantent de la musique médiévale, un trio de voix de femmes qui va chanter Hildegard von Bingen avec ses musiques ô combien mystiques et célestes, extraordinaires, vraiment tellement inspirée. Et l'originalité de Moravossis, c'est qu'elle mêle Hildegard von Bingen à des compositions beaucoup plus contemporaines, 20e et même 21e siècle. Il ne faut pas rater ce trio de voix de femmes magnifiques. Ensuite, on aura alors quelque chose d'extrêmement original à 19h le 13 juillet. C'est le duo Agua Madeira. Ce sont deux très jeunes musiciens argentins, c'est pareil, ils doivent avoir 25-30 ans, qui chantent des chansons d'Argentine, mais aussi du Pérou, de Bolivie, et aussi leurs propres compositions. Vraiment une très belle originalité. Et on terminera cette journée du 13 juillet à 20h30 par le trio Amra Trusen Brothers, qui sont des musiciens indiens, donc de la musique traditionnelle indienne. Ce sont vraiment des virtuoses. L'originalité incroyable, c'est qu'ils habitent Tours. Ce sont des tourangeaux, mais ils font des tournées dans le monde entier. Ce sont trois très grands musiciens qu'on a déjà accueillis dans les Méridiennes. Je suis vraiment très heureux de les retrouver cette année. Le 14 juillet à 12h30, on aura un concert jazz avec Guillaume Hasbrouck au piano solo, qui est un des grands pianistes jazz de la scène française, qui est passé au Petit Faucheux aussi. Et c'est d'ailleurs un concert qu'on organise en partenariat avec le Petit Faucheux, la grande scène jazz de Tours, parce qu'on aime beaucoup ce genre de partenariat, surtout avec le Petit Faucheux, où ils sont si sympas et ouverts. À 17h30, on aura encore de la musique baroque avec un joueur de viol de gamme, ce magnifique instrument qui a été révélé par le film Tous les matins du monde, avec Jean-Pierre Mariel et d'autres comédiens de grand talent. Et Ronald Martin Alonso va jouer les musiques de Marin Marais, de Sainte-Colombe, de Tous les matins du monde, mais aussi des musiques beaucoup plus modernes, y compris de son propre pays, car il est brésilien. Il fait partie de ces nombreux musiciens de grand talent d'Amérique du Sud qui sont venus faire de la musique ancienne en Europe. À 19h, on aura le duo Alborada, un duo de guitare, un instrument que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, et qui est régulièrement invité aux Méridiennes. Donc un duo de guitare espagnole. On pourrait dire que c'est assez classique, on voit à peu près ce que c'est, mais venez écouter Stéphanie Fagé et Olivier Castin, deux très grands guitaristes qui vont vraiment vous surprendre. Et on va terminer toujours dans la musique espagnole. D'abord en buvant de la sangria, parce que les Méridiennes, c'est vraiment allier musique et gastronomie. Donc là, on sera dans une ambiance d'été chaude, espagnole, et donc la sangria s'impose. Et on va entendre quelque chose de très original aussi. Ce sont des zarzuelas, donc ce sont des mini-opéras populaires espagnols, 19e siècle, avec deux magnifiques interprètes aussi, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est quelles que soient les musiques, et aux Méridiennes, elles sont extrêmement variées, quelles que soient les musiques, c'est d'accueillir ces interprètes incroyables, de talent. On croit connaître une musique, mais les voir interpréter avec ces gens-là, c'est toujours des expériences magnifiques. On aura Rémi Jousselme à la guitare, le professeur de guitare au conservatoire de Tours. On a beaucoup de chance à Tours d'avoir des musiciens de cette trempe. avec la chanteuse Aino Soissoa, qui, comme son nom l'indique, est bien de là-bas. C'est une basque espagnole, avec beaucoup de tempérament, beaucoup de fantaisie, beaucoup d'humour, puisqu'ils ont intitulé leur programme Carmen Cuisine, une fantaisie lyrique et culinaire en fragnole. Voilà, un mélange assez détonnant qui nous fera clôturer les méridiennes avec beaucoup d'humour et de talent.
Ah, le fragnole, ça peut aussi faire écho aux fans de Lydie Salver, puisqu'elle parlait justement du fragnole de sa mère dans son livre « Pas pleurer ».
Ah, très bien, je connaissais pas, je pensais que c'était leur invention, mais donc le fragnole a déjà une existence.
Voilà, il y a une occurrence en tout cas de fragnole chez Lydie Salver. Ah, alors là, on retrouve aussi l'idée du bien manger, bien boire et bien écouter. Est-ce que c'est un festival de synesthésie, les Méridiennes ?
Ben, c'est un festival de plaisir, de surprise, et aussi une dimension sur laquelle j'ai pas assez insisté, c'est la convivialité, c'est la simplicité. Le fait que les concerts soient à 12h30, à 17h, ce sont des horaires inhabituels, et ben, c'est une autre disposition d'esprit du public, ça c'est certain, mais de l'interprète aussi, certainement. Et puis le plaisir des dégustations culinaires après le partage dans la cour de la salle au Guéguem. C'est vraiment des instants de convivialité, d'ouverture. Le prix est très modique puisque c'est 7 euros par concert. En plus, c'est moins si on prend un abonnement, un pass journée ou un pass festival. L'accessibilité est très importante. On a des partenariats avec les associations qui s'occupent de personnes handicapées ou éloignées des concerts pour raisons économiques, pour raisons physiques. On travaille avec Marie-Vonne Bégon de la mission handicap de la ville de Tours, avec Culture du Cœur, avec le CHU de Tours qui nous amène aussi des personnes légères schizophréniques. Et non seulement elles les amènent au concert, mais elles les amènent dans l'équipe des bénévoles, et des infirmières participent en tant que bénévoles au festival. Donc voilà, c'est vraiment le partage, l'ouverture des portes, l'ouverture des fenêtres, l'ouverture des oreilles, l'ouverture des papilles, et c'est la convivialité, c'est vraiment des moments de grand plaisir.
Et alors, pour que ce soit possible, ces tarifs raisonnables, comment vous êtes soutenus ? Parce qu'on imagine bien qu'il doit y avoir quelques soutiens financiers.
Oui, il y a quelques soutiens. La culture doit être soutenue, quelle que soit sa forme. Donc le Festival Les Méridiennes, comme beaucoup d'autres, reçoit trois soutiens. D'abord, celui de la ville de Tours, qui est important. Une petite subvention budgétaire, mais aussi la mise à disposition de la salle Hockey Game, avec son personnel qui participe de façon très très active, Abdi et Pascal, les deux techniciens de la salle Hockey Game, avec le service Parc et Jardin qui fleurit la cour de la salle Hockey Game, parce que les Méridiennes, c'est aussi un décor. La cour de la salle Hockey Game est complètement transformée en jardin pour que l'événement soit encore plus agréable. Donc le soutien de la ville de Tours, le soutien du département, du service culture du département d'Indre-et-Loire, et une petite subvention aussi du Spedidam, qui est une société civile d'interprétation, comme l'Assassin pour les auteurs-compositeurs, le Spedidam joue le même rôle. Mais la plus grosse partie du budget, ce sont les entrées, bien sûr, et on a la chance de remplir beaucoup les salles, mais c'est absolument nécessaire. On a besoin de ce budget d'entrée pour équilibrer le festival, car c'est un festival professionnel qui fait appel uniquement à des musiciens professionnels
rémunérés,
que nous rémunérons avec un cachet tout à fait normal.
Non, c'est toujours bon de le rappeler. Et alors, puisqu'on a détaillé ce programme, toutes ces richesses musicales, peut-être qu'on peut dire, mais qu'est-ce qu'on va manger ? Puisqu'il est question de manger aussi quand même, là, on peut voir certains partenaires sur votre site. Est-ce que
oui,
vous voudriez en dire un mot pour nos auditeurs ?
Alors, tous les concerts de 12h30 et le premier concert du soir, le 11 juillet à 19h30, seront suivis de dégustations offertes par nos partenaires. Donc, ils sont souvent des commerçants des halles, donc il y a des fromagers, il y a même un poissonnier, du pain, des charcuteries, des légumes, on a des maraîchers, le Biotope, maraîcher à la Ville aux Dames, bio bien sûr, car on est un festival éco-responsable aussi, tout est sur papier recyclé, tout ça. Voilà ce qu'on pourra. Il y aura aussi la Maison Clément le premier soir, avec un peu de foie gras, il y aura des macarons, Et puis, quand dans les après-midi et soirées, quand les concerts vont se succéder, on a fait appel à un food truck, la souris verte, qui sera carrément garé dans la cour de la salle Hockey Game et qui va vendre ses spécialités. Alors, ce sont des gens du Nord, donc il y aura des frites, mais il y aura aussi des très bonnes frites, parce que j'ai testé avant de les faire venir. Il y aura aussi beaucoup d'autres plats à déguster dans leur food truck.
Voilà, parce que ça peut sembler anecdotique, cette question de qu'est-ce qu'on mange, mais c'est vrai que ça, c'est aussi à prendre en compte si on veut que le festival puisse s'adresser à tout le monde.
Oui, et le but est de s'adresser à tout le monde, donc avec des prix modiques, donc 7 euros pour les concerts, mais aussi que le festival se transforme en véritable événement de journée entière. On a envie que les gens qui viennent à 12h30 restent pour les ateliers, les lectures de l'après-midi, restent pour les 3 concerts qui suivent et en fait passent la journée sur place. Et donc on n'est pas les vieilles charrues, on n'est pas terre du son, mais ça mérite aussi de passer la journée entière aux Méridiennes.
Voilà, on peut passer la journée entière aux Méridiennes, donc on peut écouter, on peut voir des choses aussi, puisqu'il y a des concerts avec des images, des projections.
Oui.
On peut manger, par contre on danse pas aux Méridiennes.
Alors, on a eu de la danse. La dernière fois que les Indiens sont passés, il y avait une danseuse avec elle. On a eu aussi un concert de flamenco avec une danseuse. Mais je tiens à ce que les Méridiennes soient une succession de concerts, de musique. Voilà, évidemment, musique et danse, ça marche très très bien ensemble. D'ailleurs, au concert de clôture 2018, donc les deux trios de musique irlandaise ont joué dans la salle Hockey Game. Et après, on a fêté notre 10e anniversaire, puisque c'était la 10e édition l'année dernière, sur la place Châteauneuf. La mairie avait dressé une scène et bien sûr, spontanément, parce que quand on écoute de la musique irlandaise, les jambes se mettent à bouger toutes seules. Beaucoup de gens se sont mis à danser et on a passé un moment très sympa, donc à renouveler certainement.
Est-ce que par hasard, vous auriez une autre curiosité musicale à nous proposer ?
Oui, alors je vais vous passer l'ensemble Diabolus in Musica. Donc c'est les Requiem dont je parlais tout à l'heure, donc c'est pas des musiques pour rire, encore moins pour danser, mais par contre des musiques tout à fait solennelles, vraiment impressionnantes et d'une très grande beauté. Donc c'est le Requiem de Pierre Delarue, on est aussi à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance.
Thank you.
Campus Tour, vous écoutez toujours Sortez, je suis toujours en compagnie d'Antoine Gerber. Alors, cet ultime morceau que vous nous proposiez, c'était justement votre ensemble.
Oui, l'ensemble Diabolus in Musica, ce qui est notre dernier disque, qui comporte les deux premiers requiem polyphoniques de l'histoire de la musique, avant ceux de Mozart, Brahms, Verdi, et Britten et tant d'autres, le requiem d'Hockeghem et le requiem de Pierre Delarue. Donc on est à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, avec un groupe de chanteurs aux voix graves tout à fait impressionnantes, que je suis très, très heureux d'animer et de diriger.
Alors, cette émission touche à sa fin. Si on souhaite retrouver toutes les informations relatives au festival, je pense qu'on peut se rendre sur votre site.
Oui, sur le site de Diabolus in Musica, sur lequel il y a une page dédiée aux méridiennes, avec toute la programmation et tout le détail pour les concerts, les horaires, les tarifs, les ateliers et les lectures, parce que les méridiennes, c'est pas seulement des concerts, c'est aussi des ateliers de chant, d'œnologie et des lectures de textes sur la musique.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sur ce même site, on peut même trouver les disques dont vous nous avez parlé dans cette émission. Pas tous, peut-être ?
Non, pas tous, les nôtres, puisque c'est le site de Diabolus in Musica. Mais on peut retrouver toutes les informations et puis les dates des concerts aussi, à la fois du Festival Les Méridiennes et de l'ensemble Diabolus in Musica.
Eh bien, merci à vous d'être venu nous présenter cet événement et votre ensemble sur Radio Campus Tours.
Merci, à bientôt.